Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour, 50 millions d'actifs de moins en Europe d'ici à 2050. C'est à la fois un défi économique et un défi de société pour un continent toujours plus vieillissant. En France, il y aura à cette date près de 4 millions de seniors en perte d'autonomie. Le pays manque de places dans les établissements d'accueil, mais aussi de personnel pour la prise en charge à domicile. Des innovations commencent à voir le jour, l'habitat communautaire pour seniors par exemple, les maisons multigénérationnelles ou encore l'accueil en famille. Ce dernier système est un intermédiaire entre le maintien à domicile et la maison de retraite pour des personnes encore relativement autonomes. Notre correspondante Lise Verbeck s'est rendue en reportage chez Françoise Brun. Elle est accueillante depuis 20 ans dans le nord de la France.
Françoise Brun habite dans une grande et jolie maison en plein centre-bourg à Coulmel.
Bonjour.
Entrez. Oh là là, quel temps. On va peut-être se mettre de l'autre côté.
Elle a vécu à Paris jusqu'à l'âge de 40 ans et elle a exercé plusieurs métiers, secrétaire, commerciale, hôtesse d'accueil. Il y a 20 ans, elle s'est installée ici, dans ce village perdu de la campagne Picarde, mais elle était au chômage.
Je gardais un petit garçon de 3 ans et demi qui m'avait été confié à Paris et dont on ne retrouvait pas la maman. Je me suis adressée à une assistante sociale qui m'a dit « Écoutez, vous avez un cœur gros comme ça, donc on va faire les démarches pour que vous ayez la garde de ce petit garçon », ce que j'ai refusé parce que ce n'était pas mon objectif. L'objectif était qu'on retrouve la maman et qu'on aide cette maman qui était seule. Donc ça s'est fait et voilà, bon, sans travail, sans rien, j'étais en fin de droit et cette assistante sociale m'a proposé d'être famille d'accueil. Je ne connaissais pas du tout, j'ai dit bon ben pourquoi pas, j'ai besoin de gagner ma vie. Le départ c'était ça. C'était travailler.
Mais en fait, c'est très vite devenu plus qu'un simple travail.
On ne peut pas faire ça pour l'argent. Nous sommes des professionnels, mais il faut un plus. C'est-à-dire aimer accueillir les gens, aimer l'humain, comprendre l'humain. Voilà, j'aime donner, en fin de compte. Et moi, ça m'apporte beaucoup parce qu'en étant famille d'accueil, j'ai ce que je veux, quoi. Je m'épanouis.
Elle a obtenu un agrément du département de la Somme et peut accueillir 3 personnes, des personnes âgées mais aussi des handicapés mentaux. Chaque mois, un agent du département vient la contrôler pour vérifier que tout va bien. Et puis si les accueillis ont besoin de soins, Françoise Brun s'occupe de contacter les infirmières, etc. pour les rendez-vous à domicile.
Un petit café ?
Ouais.
On va boire du café alors. On est très café, hein. J'ai des origines du sud.
Parmi les accueillis chez Françoise, il y a Christian Savoie, 74 ans. Ici, il a trouvé une famille.
Ben, l'avantage, disons, comparé à un EHPAD, par exemple, on n'est pas vraiment astreint à des horaires pour un EHPAD, tout ça.
Vous êtes plus libre ?
Oui, on est plus libre. On est en famille, si vous voulez. Après manger, on discute, ça fait du bien. C'est convivial.
Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu à quoi ressemblent vos journées?
Je regarde beaucoup la télé.
Ah oui.
Je suis beaucoup de télé. Hein. Je fais ce que je peux. Quand il fait beau, je fais de la peinture.
Oui, vous m'avez repeint la peinture, un peu de jardinage aussi. Vous nous arrachez un peu d'herbe, ouais. Vous s'occupe quoi. Un sucre ou deux, Christian?
Deux.
C'est-à-dire que nous sommes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ensemble. Donc, c'est très important d'avoir un feeling et de comprendre les accueillis, leurs problèmes, vouloir les aider. Je pense qu'il faut avoir en plus l'intelligence du cœur. Écouter, comprendre, se mettre à la place de l'accueilli parce qu'il a une vie passée et il faut en tenir compte. Et puis il faut petit à petit évoluer avec lui. Puis après, bon, on devient assez complice et ça se fait tout seul.
Et alors, est-ce qu'il a des petites manies, monsieur Savoie?
Des manies, non. Il reçoit son journal tous les matins. Voilà, alors il est réveillé très tôt, 6h30.
J'ai toujours été un lève-tôt.
Ah oui.
Ah oui.
Nous, on est encore au lit, que lui, il fait son petit train-train, il ouvre ses volets, voilà, il va chercher son journal, il lit
son journal. J'aime bien lire les faits divers, tout ça, j'aime bien tout courant de la vie, quoi. Ah, le journal, ça, c'est sacré.
Christian Savoie espère rester le plus longtemps possible chez son accueillante. Il lui paye un loyer en fonction de ses revenus et un salaire. Et Françoise Brun reçoit également une participation du département. L'accueil familial coûte moitié moins cher qu'une maison de retraite, mais c'est un système encore peu connu. Un récent rapport parlementaire suggère de le développer pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population. Et pour rendre le dispositif plus attractif, les élus proposent une revalorisation du salaire et une prime de précarité en cas d'arrêt maladie de l'accueillant.
Voilà.
L'Allemagne compte déjà plus de 4 millions de personnes âgées dépendantes et un quart d'entre elles résident dans des établissements médicalisés. C'est nettement moins que dans beaucoup d'autres pays européens et ça s'explique notamment par le rôle central que jouent encore les familles. Les précisions depuis Berlin de notre correspondant Julien Méchaussy.
Alors que la tendance en Europe est au développement des structures d'accueil pour les personnes dépendantes, l'Allemagne continue de laisser cette responsabilité aux familles. Par tradition, mais aussi à cause de nombreux scandales de mauvais traitements constatés dans les établissements médicalisés. Auteur d'une récente étude sur la dépendance et professeur à l'université de Mayence, Vincent Horn pointe l'absence de volonté politique associée à un appât du gain.
Sur les 15 000 résidents médicalisés pour personnes âgées que compte l'Allemagne, la moitié appartient à des investisseurs privés. Cela signifie que les soins à la personne sont considérés comme un marché en pleine croissance, un marché qui permet de gagner de l'argent. Et comment peut-on faire le plus d'économies ? En réduisant les coûts du personnel, avec comme conséquence un manque dramatique de soignants dans ces résidences.
Sans oublier qu'une famille allemande doit débourser en moyenne 1 800 euros par mois pour la prise en charge d'un proche dans un établissement médicalisé, en plus des aides de l'État. Ne reste alors plus comme solution que les soins à domicile, mais là aussi se pose la question des coûts financiers et du personnel. Avec l'ouverture vers l'Est de l'Union européenne, on estime entre 300 000 et 600 000 personnes, en grande majorité des femmes venues de pays comme la Pologne et la Slovaquie, qui travaillent dans le secteur des soins aux personnes dépendantes, le plus souvent de manière illégale.
Cela correspond à l'idéal d'une prise en charge au sein de la famille, avec des soignants qui le plus souvent vivent sous le même toit que les personnes âgées. Ce qui est positif avec des liens très forts qui se nouent. Mais le revers de la médaille est que ces personnes ne sont pas déclarées sans assurance maladie, ni protection contre les accidents. Personne ne sait combien de temps elles travaillent, dans quelles conditions, comment se règlent les questions de congés et j'en passe.
Des soignants dans l'illégalité, pourtant devenus un pilier du système de soins allemand, avec un État qui semble jusqu'ici s'en accommoder.
En Italie, on les appelle les badanti, du verbe badare qui veut dire prendre soin. Ces auxiliaires de vie partagent l'existence des personnes dont ils s'occupent, courses, ménages, déplacements, soins. Dans un pays où l'âge médian est le plus élevé de l'Union européenne, ils jouent un rôle essentiel. D'autant plus qu'avec la pandémie, ils sont souvent, pendant le confinement, le seul contact humain de nombreux retraités. Malgré tout, beaucoup de ces badanti travaillent toujours sans être déclarés. Mais la crise sanitaire a attiré l'attention sur la nécessaire défense de leurs droits. À Rome, le reportage d'Olivier Bonnel.
Comme chaque matin, Barbara refait les mêmes gestes. Depuis plusieurs années, cette Polonaise fait le ménage dans un immeuble de bureau du centre de Rome. Quand elle est arrivée en Italie il y a 26 ans, c'est pourtant le métier de badante ou auxiliaire de vie qu'elle a exercé, comme de nombreuses femmes venues comme elle de l'étranger.
Je suis venue ici pour faire vivre mes enfants. C'est pour eux qu'on fait tous ces sacrifices. J'ai donc fait la badante avant ce travail. J'ai commencé en aidant un couple de personnes âgées. J'ai passé 10 ans avec eux. C'est la première maison où j'ai trouvé de quoi manger et de l'affection.
On estime à plus d'1,5 million le nombre de badanti en Italie, essentiellement des femmes venues des pays de l'Est, Roumanie, Pologne ou encore Ukraine. Un travail d'assistance essentiel dans un pays toujours plus vieillissant, mais bien souvent ingrat et peu reconnu, même si le statut de ses employés s'est amélioré au fil des ans.
Quand je suis arrivée en Italie, j'étais très peu payée. Je touchais environ 350 euros par mois. Je n'avais pas les droits qu'ont les badanti aujourd'hui.
Selon le ministère du Travail, qui a progressivement encadré cette activité, une badante ne peut pas être rémunérée moins de 645 euros par mois. Un revenu minimal à condition d'être régularisé, car le secteur de l'aide à domicile en Italie est encore à 60% payé au noir, un vrai frein dans la péninsule. Ces derniers mois, la pandémie de Covid-19 a bousculé ce secteur de l'assistance des personnes les plus âgées, mettant en lumière ces nombreux auxiliaires de vie que l'on croise souvent dans les parcs, donnant le bras à un retraité ou poussant un chariot dans un supermarché.
Buonasera.
Buonasera. Prego, si accomodi.
Grazie.
Nous avons rendez-vous avec Lorenzo Gasparini, secrétaire général de Domina, l'une des principales associations italiennes qui encadre l'aide à domicile. Selon lui, la pandémie a rappelé combien était important ce travail des badanti.
La première chose que la crise a montré, c'est que quand il n'y a pas de badante pour assister les personnes âgées, dans un pays qui est l'un des plus vieillissants au monde, alors les femmes ne vont pas travailler, elles sont forcées de rester à la maison pour s'en occuper. L'autre enseignement, c'est que cela a mis en évidence la solitude absolue de tant de vieux, pendant le confinement surtout. Certains ne voyaient que leur badante, ils ne pouvaient plus voir leurs enfants ou petits-enfants. Et on a découvert l'existence en Italie de cette sorte de nouvelle cellule familiale.
Comme d'autres associations, Domina discute avec les pouvoirs publics pour améliorer la condition de ces aides à domicile. Selon ses calculs, les services d'une badante déclarée se chiffrent à 15 000 euros par an, une somme que de nombreux retraités italiens ne peuvent se permettre de débourser. L'association plaide ainsi pour mettre en place des incitations fiscales afin d'alléger la charge de ces familles. Le confinement a eu néanmoins un effet paradoxal. De mars à juin 2020, il a permis de régulariser deux fois plus de badanti en Italie que les années précédentes. La question de la protection de ces aides essentielles est néanmoins toujours au centre des débats, surtout en pleine campagne de vaccination. Et alors que la pandémie est toujours forte dans la péninsule, Lorenzo Gasparini.
On demande que les badanti soient considérés comme une priorité, ainsi pour les vaccins, comme ont été justement vaccinés les infirmiers, les médecins ou le personnel dans les maisons de retraite. Il est normal que les badanti le soient aussi. Si une personne âgée est vaccinée, mais son auxiliaire de vie n'est pas, elle risque de lui transmettre le variant du virus. C'est une grande discrimination de ne pas vacciner les badanti.
Pour Lorenzo Gasparini, c'est toute l'approche de l'assistance à domicile qui doit être repensée en Italie. Un secteur stratégique alors que la natalité s'effondre toujours un peu plus chaque année. Les débats sont en cours avec le ministère du Travail et celui de la Santé. Mais preuve que les badanti sont devenus visibles dans la péninsule, le général Filiuolo, qui pilote la stratégie anti-Covid, a annoncé il y a quelques jours sur la RAI qu'elle rentrait désormais dans la catégorie des personnes à vacciner en priorité.
Rien ne va plus en Slovaquie, où le Premier ministre est en sursis après l'intervention de la présidente. Zuzana Čaputová lui demande des explications sur sa gestion de la pandémie. La Slovaquie est en effet l'une des mortalités du Covid les plus élevées au monde. En Allemagne, le week-end dernier, c'est le parti d'Angela Merkel, la CDU, qui a essuyé un revers aux élections régionales, victime d'un vote sanction contre la gestion de la pandémie de Covid, là encore. Et ailleurs, comment la cote des dirigeants européens a-t-elle évolué depuis le début de la crise sanitaire? C'est le sujet aujourd'hui de la chronique de Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Angela Merkel est-elle vraiment en difficulté?
Avec la défaite des candidats chrétiens démocrates en Rhénanie-Palatinat face aux Verts et dans le Bade-Württemberg face aux sociaux-démocrates, la succession de la chancelière se complique. Si une affaire de corruption touchant des députés de la CDU peut expliquer le recul de 3 à 4 points du parti au régional, elle s'ajoute au mécontentement de l'opinion concernant les lenteurs de la campagne de vaccination. Et la reprise des contaminations outre-Rhin ne risque pas d'améliorer la situation. Dans les enquêtes d'opinion, la CDU reflue fortement depuis 9 mois, puisque son action n'est plus approuvée que par 32% des sondés contre 39% en juin dernier. Même le taux d'approbation d'Angela Merkel s'érode. En moyenne, il est revenu de 58 à 54% en moins d'un an.
Elle reste donc assez populaire. Est-ce qu'il y a un autre pays où c'est le cas ?
Oui, un pays qui n'a pas la réputation de soutenir longtemps ses dirigeants, l'Italie, continue pourtant de le faire après l'année terrible qu'elle a vécue avec le Covid. L'ancien président du Conseil, Giuseppe Conte, avait vu sa cote exploser au printemps 2020 pour atteindre 60% d'approbation. Quant à son successeur, Mario Draghi, qui dirige un cabinet d'Union nationale, son action est actuellement approuvée par 56% des Italiens. Notons que ce soutien aux gouvernants s'est maintenu malgré des mesures de restriction très dur et alors que la péninsule se retrouve aux trois quarts à nouveau confinée du fait de la rapide recrudescence des contaminations.
Et en France, comment ça va pour Emmanuel Macron ?
Curieusement, malgré les nombreuses polémiques intervenues sur la gestion de la pandémie par le gouvernement, la popularité du président Emmanuel Macron reste assez stable depuis un an, mais à un niveau médiocre, se situant autour de 40%, tandis que 57% des citoyens désapprouvent son action.
Un dirigeant impopulaire, donc, et il y en a d'autres, Daniel.
Tout à fait. En Espagne, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, était sorti ragaillardi de la première vague de Covid, puisqu'en juillet dernier, opinion favorable et défavorable s'équilibrait autour de 47%. Mais depuis, sa cote ne cesse de décliner et il n'est plus à présent approuvé que par 33% des Espagnols contre près de 60% qui désapprouvent son action. Encore un paradoxe puisque l'Espagne a desserré largement depuis le début de l'hiver les restrictions à la circulation, aux loisirs ou à la culture. Malgré cela, c'est l'un des rares pays d'Europe où le nombre de nouvelles contaminations a chuté sans que la moindre remontée ne s'amorce pour l'instant.
Et on termine ce petit tour d'Europe par le Royaume-Uni.
Outre-Manche, la cote de Boris Johnson est très volatile. Les dures mesures de confinement édictées par le Premier ministre au printemps 2020, ajoutées à l'émotion suscitée par sa propre contamination au Covid, avaient fait bondir sa popularité à 66% en avril. Trois mois après, les Britanniques n'étaient plus que 43% à le soutenir et même seulement 37% en novembre dernier. Mais sans doute parce que les contaminations ont chuté dans le pays, qu'elles ne remontent pas et que surtout la campagne de vaccination y est menée tambour battant, Bojo reprend des couleurs dans l'opinion à 44% d'approbation. En fait, c'est au Royaume-Uni que la cote des dirigeants semble plus corrélée avec l'évolution de la pandémie.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Qu'est-ce que le bon goût ? La discussion est ouverte au musée Pera d'Istanbul, où une exposition consacrée au kitsch interroge le rapport de l'art à la beauté et les frontières entre l'académisme et le populaire. Cette expo, qu'on peut découvrir dans le quartier historique de Beyoğlu, s'intitule tout simplement « Une question de goût » et notre correspondante Anand Lauer s'y est rendue.
Une diva peroxydée en robe rouge, comme sa bouche, bras levés, visage éclairé, telle une madone, trône au milieu de fleurs, roses et violettes, dans un tableau encadré de perles multicolores. Une vidéo, nommée « Soupe de rêve », détaille la fabrication d'un parfum bon marché dans un atelier anonyme des Émirats Arabes Unis, avant d'enflaconner le liquide dans du verre coloré. Des figurines en porcelaine, tête de chat, corps de danseuse orientale, tête de geisha, corps de statue antique, forment une installation à la frontière de l'art et de l'artisanat, du vrai et du faux, de l'original et de la copie. Toutes les œuvres présentées dans cette exposition correspondent à ce qu'on appellerait un peu facilement le kitsch. Ulia Soleil, curatrice de l'exposition, l'admet, le kitsch a presque toujours une connotation négative. Le concept né au milieu du 19e siècle fascine en ce qu'il interroge l'art lui-même et le rapport du public à l'art. Il désigne pour beaucoup ce qui est laid, vulgaire et pas cher. Il est indissociable de la consommation de masse, de l'accès de ces masses à une forme de culture, que d'aucuns qualifient de culture au rabais, à une forme de goût qui serait forcément mauvais. L'exposition « Une question de goût » ouvre la discussion. Peut-on envisager un art plus inclusif, sans hiérarchie des publics, classe supérieure contre inférieure, et des œuvres, culture de masse contre culture avec un grand C, classique ou d'avant-garde ? Comment ces valeurs esthétiques se transposent-elles entre l'Occident et l'Orient, et comment Internet bouleverse-t-il ces concepts ? L'exposition présente les œuvres de 13 artistes ou collectifs plongés dans ces contradictions. Sauf changement de programme lié à l'épidémie, elle restera ouverte jusqu'au 6 juin.
Accent d'Europe a été réalisé par Françoise Grelot. Vous retrouvez l'émission sur la page podcast du site RFI.fr. À bientôt.